Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Comme vous le savez, pendant la période de l'été, on ne fait pas une étude suivie d'un livre ou d'une lettre. On regarde différents textes et la semaine dernière, nous étions déjà dans l'évangile de Jean un peu plus tôt. Et aujourd'hui, donc, nous voulons regarder surtout les versets 13 et 14 de ce chapitre 14. Mais on va lire ce passage à partir du verset 1 pour que nous nous rappelions du contexte. Jean 14, donc à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en mon nom, pardon, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et c'est la parole de Dieu. La question que l'on se pose, ou que l'on va se poser ce matin, c'est à quel genre de prière Dieu va-t-il répondre ? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples pour la dernière fois avant sa crucifixion. Et il leur fait un certain nombre de promesses, des promesses assez révolutionnaires qui étaient destinées à soutenir la foi des disciples et à révéler les plans du Seigneur Jésus pour subvenir à leurs besoins après son départ. D'abord, le Seigneur va leur promet de préparer une place au ciel, et il leur promet de revenir pour les chercher. On a cela au verset 3. Ensuite, la deuxième promesse, c'est que le Seigneur Jésus assure aux croyants qu'ils vont poursuivre son œuvre, en disant même au verset 12 que le croyant fera de plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Et la troisième grande promesse vient immédiatement après la deuxième, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La première chose que l'on a ici, c'est le Seigneur Jésus qui assure les disciples d'une communion permanente avec lui, après sa mort, après sa résurrection et son ascension au ciel. Et c'est le premier grand point, une communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut comprendre l'importance de la promesse que le Seigneur Jésus fait en se posant la question, qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? La première réponse est qu'un chrétien est quelqu'un qui croit dans l'enseignement de la Bible au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et cette définition est soulignée par la merveilleuse confession de l'apôtre Pierre, quand il déclare sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 16, verset 16, par exemple. « Tu es le Christ », c'est-à-dire le Messie, celui qui a été oint, celui qui a été promis. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Une autre réponse, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui est devenu, par la foi en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, qui est pardonné, qui est bien-aimé de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui souligne cette réalité quand il écrit au début de son évangile, Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mais une autre définition essentielle est qu'un chrétien est un homme ou une femme qui vit dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les déclarations du Seigneur Jésus, quand il utilise la formule « je suis », soulignent cette réalité. Jean 8, verset 12, par exemple, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 10, verset 13 et 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep. » Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ces déclarations et bien d'autres déclarations dans l'évangile de Jean définissent la vie chrétienne comme une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, une relation de foi, une relation de salut. Mais la question se pose, comment pouvons-nous avoir une relation personnelle, une communion avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent? Comment pouvons-nous avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas physiquement présent? Et c'était la question qui rongeait les disciples. Jésus avait annoncé de son départ, il avait dit qu'il ne pouvait pas, les disciples ne pouvaient pas le suivre, mais comment pouvaient-ils rester en communion avec lui? Et le Seigneur Jésus-Christ répond en leur disant qu'il va au ciel pour prendre son royaume, pour prendre le pouvoir que le Père lui a donné. Et donc, étant donné que le croyant peut parler à Dieu, le Père, par la prière, nous pouvons aussi communier avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Et nous pouvons par la foi parler avec le Seigneur Jésus-Christ, comme les disciples ont parlé avec lui pendant ses jours sur terre. Un commentateur, Arthur Pink, écrit ceci, « C'est vrai, le Seigneur Jésus allait monter au ciel, et eux, les disciples, allaient rester sur la terre. Mais la prière allait pouvoir enlever toute notion de distance. La prière allait pouvoir les amener en sa présence à tout moment. » C'est pour ça que, de même que la relation personnelle avec Jésus est essentielle, bien entendu, au salut, la prière est essentielle dans notre vie de foi en tant que disciple. Le réformateur allemand Martin Luther insiste sur ce point. Il écrit « Un chrétien sans prière est tout aussi impossible qu'une personne vivante sans pulsation cardiaque. » C'est impossible. Sans la prière, il n'y a pas de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et sans relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de christianisme en réalité. Une communion réelle, une communion personnelle, une communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité n'est pas seulement l'obligation pour un croyant, c'est aussi son grand privilège. Un commentateur raconte l'histoire d'un pasteur chinois qui a été placé dans un camp de travail forcé à cause de sa foi. Et ses gardiens lui ont refusé une Bible et le punissaient quand il parlait, quand il priait ou quand il chantait. Et par méchanceté, ils lui ont fait nettoyer le contenu des toilettes du camp. Et chaque jour, ce pasteur prenait les excréments et allait les disperser comme engrais sur les champs. L'odeur était si infecte que les gardes se retiraient. Ils laissaient ce pasteur beaucoup d'espace, lui permettant de chanter, de prier le Seigneur. Et pour cette raison, ce pasteur est venu à aimer cette occupation malodorante, parce qu'il pouvait apprécier ouvertement la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le fumier était devenu son jardin. Il aurait pu chanter ce chant américain qui est écrit vers 1912 et qui dit ceci: « Je viens au jardin seul, alors que la rosée est encore sur les roses. La voix que mon oreille entend dévoile le Fils de Dieu. » Le refrain dit ceci: « Car il marche avec moi, il parle avec moi, il me dit que je lui appartiens. Et la joie que nous partageons alors que nous séjournons dans ce jardin, personne d'autre ne l'a jamais connue. » Beaucoup de chrétiens sont tyrannisés par les horaires, le mode de vie actuel. Et on ferait bien de passer du temps, de trouver le temps dans la journée pour passer un moment dans le jardin avec le Seigneur. Toute notre vie, en fait, nous sommes appelés à vivre dans cette communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu dans ce passage de Colossiens, Paul nous rappelle en Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Mais il y a la réalité de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il n'est pas présent, il est avec nous. C'est une réalité. Le deuxième grand point que nous voulons voir ce matin, c'est l'envergure de nos prières. Parce que la promesse que le Seigneur Jésus-Christ fait en Jean 14, verset 13, va plus loin que simplement nous assurer de cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Il ne dit pas seulement que nous pouvons prier, mais il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est l'envergure de la promesse qui nous coupe le souffle. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Alors, par expérience, nous savons que la prière ne signifie pas que nous obtenons tout ce que nous avons demandé exactement comme nous l'avons demandé. Parfois, nous prions sans sagesse. Et nous pouvons être reconnaissants que la sagesse de Dieu ne soit pas renversée par notre folie. Et rappelons-nous aussi que les priorités du Seigneur sont spirituelles et que souvent il place notre bien-être spirituel avant notre bien-être matériel. On a cité cet exemple de l'apôtre Paul qui a prié à trois reprises, a prié pour que Dieu retire une épine de sa chair, quelle qu'elle soit, on ne sait pas ce que c'était exactement. Et trois fois le Seigneur a répondu, non pas en enlevant l'épine, mais en donnant à l'apôtre Paul la grâce de supporter l'affliction. Il lui enseignait une leçon vitale, 2 Corinthiens 12, verset 9. Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et les réponses et les prières sans réponse, ou plutôt, devrais-je dire, les prières qui ne reçoivent pas de réponse immédiate, sont aussi une question de timing, de calendrier de Dieu. Pour diverses raisons, le Seigneur désire parfois que nous persévérions, que nous soyons patients, que nous attendions la réponse à nos prières. Mais en ayant dit tout cela, il ne semble pas qu'on doit réaliser que ce n'est pas l'accent que Jésus met dans cette promesse. Jésus souligne qu'il donnera tout ce que nous demandons dans la prière. Une illustration peut permettre de comprendre ce que Jésus veut dire. Et cette illustration vient d'Alexandre le Grand. On raconte qu'un jour, un homme s'est approché de ce conquérant macédonien, Alexandre le Grand, et a plaidé parce qu'il avait besoin d'une grande somme d'argent. Et Alexandre le Grand a immédiatement envoyé cet homme vers sa trésorerie en lui disant de demander tout ce dont il avait besoin. Et quelque temps après, le trésorier est venu affolé avec ce rapport que l'homme avait pris une vaste somme du trésor royal. Et Alexandre le Grand répond au trésorier que non, il avait autorisé cet homme à faire cela. Et il explique, il m'a demandé en tant que roi, et je lui ai donné en tant que roi. Et combien plus cela est vrai de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme l'apôtre Paul nous le rappelle en Éphésiens chapitre 3, verset 20, peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a littéralement aucune limite placée sur l'envergure de nos demandes au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans un de ses cantiques, John Newton, l'auteur de Amazing Grace, mais dans un autre cantique, il dit ceci, en s'adressant aux croyants, il dit « Tu t'approches d'un roi, alors apporte de grandes pétitions avec toi, car sa grâce et sa puissance sont telles que nul ne peut jamais demander trop. » Nous nous approchons d'un roi, de quelqu'un qui peut absolument tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais cela nous amène au troisième grand point. Il y a une condition. La condition pour nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Pour certains croyants, prier au nom de Jésus ne signifie rien de plus que d'ajouter les mots « au nom de Jésus » à la fin de leur prière. C'est une bonne pratique, mais il faut être sérieux. Quand on prie au nom de Jésus, cela veut dire qu'on vient à Dieu le Père par la médiation de son Fils, en comptant sur le sang qu'il a versé pour notre acceptation, en comptant sur son intercession pour notre admission devant le trône de Dieu. Prier en un autre nom, ou tout simplement prier au nom de personne, c'est n'avoir aucune raison légitime d'attendre que Dieu réponde à nos prières. Un commentateur raconte l'histoire d'un conférencier à qui on a glissé un petit mot lors d'une conférence. Et ce mot venait de la part d'un homme qui était aigri, qui était rempli d'amertume, parce que Dieu ne répondait pas à ses prières. Et ce mot disait, « Je suis un membre de l'Église depuis 30 ans. J'ai toujours essayé d'assister aux réunions. J'ai été responsable de l'école du dimanche pendant 25 ans, ancien dans l'Église pendant 20 ans. Et pourtant, Dieu ne répond pas à mes prières. Et je ne peux pas le comprendre. » Le conférencier a lu la note depuis le pupitre et a déclaré que l'explication était simple. Et il dit ceci, « Cet homme pense que parce qu'il a été un fidèle membre de l'Église pendant 30 ans, un fidèle responsable de l'école du dimanche pendant 25 ans, ancien de l'Église pendant 20 ans, que Dieu a l'obligation de répondre à sa prière. En fait, cet homme prie en son propre nom. Et Dieu n'entendra pas nos prières quand nous nous approchons de lui de cette façon. Nous devons, si nous voulons que Dieu réponde à nos prières, renoncer à toute pensée que nous avons des revendications auprès de Dieu. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Si on avait ce qu'on méritait, chacun de nous passerait l'éternité en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ a de grandes revendications auprès de Dieu. Et nous devrions aller à Dieu dans nos prières, non pas sur la base d'une quelconque bonté en nous-mêmes, mais sur la base des revendications et des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus signifie donc prier sur la base des revendications et des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même nous donne un exemple en Jean 17 dans sa prière sacerdotale, quand il prie pour son peuple. Il rappelle à son Père, il dit « Voilà, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. J'ai donné à ton peuple les paroles que tu m'as données. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Et sur cette base, le Seigneur demande à son Père de le glorifier, de garder son peuple dans une communion vivante, de préserver son peuple du malin, de le sanctifier par la vérité et de faire en sorte que son peuple soit avec lui dans la gloire. Et c'est sur cette même base que nous devons prier sur l'œuvre, sur les mérites, sur les revendications du Seigneur Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus se réfère aussi à l'ensemble de sa révélation de lui-même, y compris de son caractère et de la volonté qu'il a fait connaître. Un commentateur dit que cela signifie que la prière doit être en accord avec tout ce que ce nom représente. C'est la prière qui procède de la foi en Jésus-Christ, la prière qui exprime l'unité avec le Seigneur Jésus-Christ, la prière qui cherche à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et un autre commentateur ajoute, « Prier au nom de Jésus, c'est chercher une approbation de notre requête. C'est aussi prendre en considération le fait que ce que nous demandons est conforme à la nature et au dessein de notre Seigneur. » Cela signifie qu'on ne devrait jamais s'attendre à ce que le Seigneur réponde aux prières égoïstes, aux prières mondaines, aux prières insensées, aux prières dans lesquelles on cherche à se glorifier, aux prières pécheresses tout simplement. Mais lorsque notre prière coïncide avec la volonté révélée du Seigneur Jésus-Christ, avec son caractère, avec ses buts, c'est-à-dire lorsque nous prions de la même manière que Jésus prierait pour nous, alors on devrait être confiant d'offrir toutes sortes de prières à notre Seigneur ressuscité. De telles prières incluent bien sûr la bénédiction du Seigneur sur sa parole quand elle est prêchée, quand on rend témoignage à cette parole. Prier selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ inclut bien sûr notre désir d'une bonne santé pour continuer à le servir, d'avoir une provision financière suffisante pour prendre soin de notre famille, pour soutenir notre assemblée. Mais la volonté de Jésus ne soutient pas les prières pour un succès d'autoglorification, les prières pour le genre de richesse égoïste que la Bible nous dit de ne pas chercher, ou les prières d'orgueil, ou les prières de vengeance personnelle. Un commentateur donne une illustration de ce que veut dire prier au nom de Jésus. Il se base sur le travail d'un centre chrétien de réhabilitation pour alcooliques. Le fondateur de ce centre était un certain William Rose. Et le centre était dirigé par lui et ensuite par plusieurs générations de Rose, de fils et de petits-fils. Ce commentateur écrit « Supposons que l'un des hommes du centre sorte de ce centre de réhabilitation pour alcooliques et entre dans un bar de la ville voisine. Il se présente au bar et il dit « Donnez-moi un whisky au nom de Rose. » Le barman se retourne et demande « Est-ce que vous voulez dire William Rose, le fondateur du centre de réhabilitation pour alcooliques ?» ou ses fils qui ont contribué à libérer les hommes de l'esclavage de l'alcool. C'est exactement ça, dit l'ivrogne. Donnez-moi un whisky au nom de Rose. Un tel barman refuserait en disant « Comment osez-vous faire payer ce verre à Rose ?» Si vous agissiez vraiment au nom de Rose, vous seriez passé devant cette taverne. Ou alors vous ne seriez entré que pour chercher et conduire quelqu'un d'autre avec vous au centre de réhabilitation pour qu'il en apprenne davantage au sujet de Jésus-Christ. Le docteur Rose ne boit pas d'alcool et ceux qui font appel à son nom ne sont pas nos clients. Et le commentateur écrit « Prier au nom de Jésus est une question sérieuse à ne pas prendre à la légère. Souvent, nous demandons beaucoup de choses sans tenir compte de notre Seigneur, parce que nous voulons nous faire plaisir au lieu de chercher à lui faire plaisir. Quand nous le faisons, nous trouvons nos prières sans réponse, parce qu'elles n'étaient pas vraiment au nom de Jésus. » La meilleure façon de prier au nom de Jésus-Christ, c'est de prier pour les choses que la Bible nous dit de chercher. Nous devrions prier pour l'amour, la joie, la paix, la patience, les autres éléments du fruit de l'Esprit Saint que nous trouvons en Galates 5, versets 22 et 23. Nous devrions prier pour la capacité à résister à la tentation, puisque Dieu a promis de répondre avec l'aide dont nous avons besoin. 1 Corinthiens 10, verset 13, par exemple. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les parents, bien sûr, devraient prier pour que leurs enfants viennent à la foi en Christ. Tous les croyants devraient prier pour avoir l'occasion de témoigner de l'Évangile. Beaucoup d'autres sujets qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prions pour ces choses qui sont enseignées dans les Écritures, nous devrions prier dans l'attente de la réponse, d'une réponse puissante de notre Seigneur, une réponse qui sera judicieuse, une réponse qui sera au bon moment, parce qu'il a promis, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et de plus, lorsqu'on considère le nom de Jésus-Christ dans nos prières, nous constaterons que le sujet de nos prières commence à changer d'une perspective mondaine à une perspective spirituelle qui est davantage centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaîtrons dans une mesure croissante la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans ses réponses à nos prières. Mais cela nous amène au quatrième point, le but de nos prières. Tout ce que nous prions au nom du Seigneur Jésus, nous devons chercher avant tout à apporter la gloire à Dieu le Père par son Fils. C'est ce que Jésus l'enseigne au verset 13, et c'est ce qu'il nous dit. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est exactement ce à quoi nous devons nous attendre si nous prions en accord avec la volonté de Jésus-Christ. Quel est le grand désir de Dieu le Fils, sinon la gloire de Dieu le Père? C'est pour cette raison que la gloire n'était pas pour Jésus une horreur à éviter, mais un sacrifice à embrasser pour la gloire de son Père. Quand Jésus a prié lors de son arrestation, sa principale préoccupation était la gloire de Dieu. Jésus, en Jean 17, verset 1, par exemple, il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et un commentateur écrit « c'est une pensée nouvelle pour beaucoup de gens, car nous sommes tellement convaincus de l'idée que la prière est d'obtenir quelque chose de Dieu, que nous considérons rarement que la prière est en fait un moyen par lequel Dieu obtient quelque chose de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est la gloire, une gloire qui amènera les autres à lui faire confiance. » Et on voit l'intensité l'engagement du Seigneur Jésus à rechercher la gloire de Dieu quand il a prié dans le jardin de Gethsémané au sujet des tourments qu'il allait endurer pour expier nos péchés. Et son exemple nous montre que quand nous avons peur, quand on anticipe la souffrance ou quand on est criblé d'épreuves, on peut prier pour que Dieu les enlève, puisque le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose avant d'aller à la croix. Luc 22, verset 42, le Seigneur Jésus a plaidé avec son Père, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là, parce que sa prière était guidée par sa foi dans la volonté du Père, son zèle pour la gloire du Père. Le verset Luc 22, verset 42 continue. Après avoir dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », le Seigneur dit toutefois « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et un commentateur écrit « Demander au nom de Jésus, c'est donc mettre de côté notre propre volonté et nous incliner devant la volonté parfaite de Dieu. » Croire au nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus, c'est marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Son chemin mène à la gloire, au plaisir infini à la droite de Dieu. Mais son chemin est aussi un chemin qui entre dans la gloire en passant par la croix. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné en Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On ne peut pas donc prier au nom de Jésus et demander à être dispensé de la croix. Nous connaîtrons les souffrances qui sont communes à la vie dans ce monde. Nous en connaîtrons encore plus, certaines qui découlent directement de notre foi en Jésus-Christ et de la réaction de ce monde. Nous et d'autres proches vont souffrir. Certains vont mourir. Nos vies vont inclure de nombreuses déceptions. Certaines vont produire une vive tristesse. Et avant même qu'on s'en rende réellement compte, nous-mêmes, nous allons mourir. Comment allons-nous réagir à ces circonstances? Est-ce que nous allons nous plaindre à Dieu, le blâmer pour la réalité de la vie dans un monde qu'il a créé parfait et que l'humanité a ruiné par le péché? Ou est-ce que nous allons accueillir les circonstances que Dieu décrète comme étant sa volonté qui est bonne, parfaite, qui est pleine de grâce pour notre vie? Des circonstances par lesquelles nos âmes sont sauvées, nos âmes sont transformées par la foi en Jésus-Christ. Un commentateur dit: si nous choisissons cette dernière attitude, nous serons en mesure de démontrer la réalité de la merveilleuse grâce de Dieu et de la paix que Dieu donne. Cette grâce et cette paix qui sont produites par le choix souverain de Dieu dans la vie de ses enfants qui souffrent. Quand on comprend notre vocation en tant que croyant en Jésus-Christ, on doit donc non seulement conclure nos prières en disant « Au nom de Jésus », et en priant au nom de Jésus. Mais on devrait aussi joindre à nos demandes, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Ainsi, si nous prions au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu avant toute autre chose, nous pouvons avec confiance connaître la réalité de cette promesse du Seigneur Jésus. Tout ce que vous me demandez en mon nom, je le ferai. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.